France Culture.
Un nouveau rendez-vous avec l'actualité de ce samedi 28 février. Votre journal, Estelle Camerer, bonne journée.
Merci Nicolas, bonjour à toutes et à tous. L'opération Bouclier de Judée est lancée, le nom de l'attaque menée par Israël sur l'Iran. Les États-Unis ont suivi peu de temps après et mené des frappes à la suite. L'état d'urgence est déclaré en Israël, l'espace aérien est fermé. Nous serons à Jérusalem en début de journal. Nous irons également à Gaza, où les ONG opérant dans l'enclave ne seront finalement pas expulsées pour l'instant. Vous entendrez un reportage dans une clinique de Médecins sans frontières sur place. Donald Trump promet de détruire les capacités de missiles de l'Iran et de réduire à néant sa marine. Selon ses dernières annonces, le président américain a confirmé avoir lancé des opérations de combat majeures contre l'Iran. Tous les voyants étaient au rouge depuis hier lorsque les États-Unis ont demandé au personnel non essentiel de leur ambassade à Jérusalem de quitter Israël. Israël qui a attaqué l'Iran en premier ce matin, plusieurs villes ont été visées. Les médias d'État rapportent que le président iranien Massoud Pezeshkian est sain et sauf. Thibault Lefebvre, vous êtes notre correspondant à Jérusalem. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Israël a dit avoir visé des sites militaires.
Oui, Israël est passé à l'attaque. C'est l'information de la matinée. Une frappe préventive selon le communiqué il y a un peu plus d'une demi-heure du ministère de la Défense. Et puis des alertes ont ensuite sonné sur tous les téléphones et dans les rues des villes du pays en réveillant donc tous les Israéliens en ce matin de Shabbat. Le pays est en état d'urgence et s'attend donc à une réplique de l'Iran. L'espace aérien est fermé. L'armée alerte à l'instant sur une attaque imminente de drones et de missiles, pas confirmée pour le moment. La nouvelle guerre entre Israël et l'Iran a donc commencé et l'opération israélienne a désormais un nom. Il s'agit de Bouclier de Judée.
Et cela fait des semaines que le pays se prépare.
Oui, et le plus grand porte-avions du monde américain est arrivé en Beit Haïfa sur la côte israélienne, c'était hier. Des avions américains ont été repérés sur des bases israéliennes, des ravitailleurs sur le tarmac de l'aéroport civil Ben Gurion. Depuis des semaines, les hôpitaux se préparent à transférer leurs patients dans les sous-sols. Les consignes du commandement intérieur viennent de tomber. Les écoles vont fermer cette semaine. Alors il y a encore beaucoup de questions ce matin. D'abord sur l'ampleur de cette frappe dite préventive israélienne, sur le niveau de coordination avec les Américains et enfin sur la capacité de réponse des Iraniens.
Merci Thibault Lefebvre qui signe également un reportage sur le coup de théâtre hier à la veille de la fin de l'ultimatum imposé aux ONG à Gaza par les autorités israéliennes. Les 37 organisations humanitaires qui opèrent sur l'enclave ne seront pas expulsées ou alors pas tout de suite. La Cour suprême a suspendu temporairement ce processus de radiation, manifestant ainsi des doutes sur la légalité de la démarche. Les organisations dont Médecins sans frontières vont pouvoir continuer à travailler, mais toujours avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Reportage dans une clinique de MSF de Gazaville.
C'est dans le service de chirurgie orthopédique de la clinique MSF de la ville de Gaza que Rami Al-Maghari a rencontré Saïd Abou Saada. Il a la jambe droite fracturée et ce sont des médecins de MSF qui ont installé une broche le long de l'os abîmé.
Il soulage nos souffrances. Il nous procure tout ce dont nous avons besoin, comme des pansements par exemple. Dans nos hôpitaux, il n'y a même plus de simples pansements. La guerre nous a complètement ruinés.
Comme Saïd, 150 à 200 patients viennent tous les jours se faire soigner ici. Le rythme des bombardements de l'armée israélienne a ralenti depuis le cessez-le-feu précaire imposé par Donald Trump le 10 octobre dernier. Mais les besoins restent immenses. Hunter McGovern est chef de mission MSF à Gaza.
La situation pour les grands brûlés est en ce moment particulièrement mauvaise. Il y a encore beaucoup de gens qui vivent dans des abris, dans des conditions précaires, qui utilisent évidemment du feu. On reçoit donc beaucoup de victimes de brûlures, des enfants en particulier. C'est aussi ce type de soins que l'on trouve dans cette clinique.
Médecins sans frontières a besoin de médicaments. Tous les patients ne peuvent pas être traités. L'acheminement de l'aide humanitaire est très aléatoire et le conflit avec les autorités israéliennes n'a évidemment rien arrangé.
Un reportage de Rami Al-Maghari à Gaza et Thibault Lefebvre à Jérusalem. De son côté, l'Afghanistan est aussi attaqué. De puissantes explosions ont été entendues ce matin à l'est du pays au lendemain de bombardements pakistanais pakistanais dans plusieurs villes, dont la capitale Kaboul. Un avion militaire pakistanais se serait écrasé et un pilote aurait été capturé par les autorités afghanes ce matin. Mais le Pakistan nie le crash. Le Pakistan qui avait réaffirmé son intention de se défendre hier dans sa guerre ouverte contre les talibans avec le soutien des États-Unis. Sur un tout autre sujet, l'as d'or pour les jeux L'île des Mookies, Toy Battle ou encore Zénith hier en France à Cannes récompensait les jeux de société pour la 39e édition du Festival international des jeux qui se termine demain et la compétition est rude. Chaque année, plus de 3500 nouveaux jeux de société sont créés dans le monde, obligés donc de se distinguer, voire même de quitter les plateaux pour se retrouver sur nos écrans, Pierre Ropère.
Chaque jour en France, 90 000 boîtes de jeux de société sont vendues. Pour Michel Dufran, critique ludique et membre du jury au Festival international des jeux, le jeu de société, en devenant un loisir de plus en plus populaire, pousse les éditeurs à créer de nouvelles niches.
Il va y avoir une façon de séduire qui sera purement économique, d'où la multiplication de petits jeux de cartes à moins de 15 euros, 10 euros. Ça va être de la consommation rapide, le jeu va peut-être être oublié, mais il va faire son œuvre de passer un bon moment.
Pour se distinguer, les éditeurs proposent également des jeux de plus en plus beaux.
L'ère des jeux moches, c'est fini. Il y avait un adage quand moi j'étais adolescent qui était de dire « plus le jeu est laid, meilleur il sera ». Aujourd'hui, ça ne marche plus. Il y a de gros efforts, effectivement, en termes d'illustration, de qualité de matériel.
Selon une étude Médiamétrie, on dénombre aujourd'hui plus de 40 millions de joueurs de jeux de société en France, un marché qui intéresse. Ainsi, Netflix a acquis les droits pour faire du jeu Les Aventuriers du Rail. Un film, raconte Mathieu Aubert, directeur de collection pour un studio d'Asmodée, la maison d'édition derrière ce célèbre jeu de plateau.
Dans le jeu de société, il y a des univers qui ont été assez peu exploités narrativement. Donc je vois comment ils ont un matériau qui est prêt à être développé et qui pourrait déjà capter une partie de l'audience. On a l'impression que ça va nous apporter de la notoriété. On espère, par ricochet, avoir un nouveau pan de joueurs.
Les jeux de société sont donc désormais des licences. Le jeu Le Loup-Garou de Tiercelieu a été adapté en jeu télévisé sur Canal+. Véritable succès, ce nouveau format intéresse déjà à l'étranger.
Et un mot du temps pour finir. Les pluies continuent dans le centre et le sud-ouest de l'Hexagone. La Charente-Maritime, la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire restent en vigilance orange cru. Les températures iront de 7 à 12 degrés.